Je sais pas si vous avez lu Tintin, on est très nombreux à avoir lu Tintin, on croit, quelle du moins, profession. Avoir lu Tintin, parce qu'en réalité, il y aurait une histoire cachée qu'Hergé nous raconterait dans les aventures de Tintin, et que Steven Spielberg, lui aussi, raconte dans l'adaptation qu'il vient de faire des aventures de Tintin. Cette histoire cachée, Serge Tisseron, vous êtes le premier à l'avoir détectée. Vous êtes psychiatre, psychanalyste. Votre dernier livre, c'est Secret de famille, dans lequel vous revenez sur Tintin. Mais le livre, évidemment, qui a déclenché toute l'affaire, dans lequel vous résumez tout ce que vous croyez savoir, en tout cas, sur l'histoire que Hergé nous raconte dans Tintin, s'intitule Tintin et le secret d'Hergé. Alors, il se trouve que c'est en 82 que vous avez commencé à détecter tout ça dans les histoires de Tintin, mais ensuite ça a été confirmé, en tout cas en partie. Vous allez nous raconter là, pour les téléspectateurs, tout ce que vous lisez, vous, dans les histoires de Tintin, à commencer par le père et le frère. Le père d'Hergé, qui avait un frère jumeau, hein, c'était deux frères jumeaux, c'est eux qui ont inspiré d'ailleurs les Dupont et Dupont, ils sont nés tous les deux de père inconnu. Tout commence là. Hein.
Oui, c'est tragique et c'est pas sérieux, pour reprendre ce qu'on disait il y a quelques minutes. Non, c'est tragique et c'est pas sérieux, les aventures de Tintin. Donc, il y a les Dupont. Dans les Dupont, il y a Dupont D, il y a Dupont T. Et alors, en fait, pourquoi? Parce que le père et l'oncle de Hergé étaient jumeaux et ils avaient deux pères. Alors avoir deux pères aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire, hein. C'est un père géniteur et un père adoptif. À l'époque, c'était beaucoup moins courant. Le géniteur était inconnu, le père de Hergé ne connaissait pas son propre père. Et puis même, le père adoptif, c'était un faux père adoptif. Il avait touché de l'argent d'une aristocrate, il avait
fait un mariage blanc. Georges Remy, hein. Voilà. C'est lui qui a donné...
qui a légitimé les deux jumeaux quand ils avaient 11 ans. Donc vraiment un homme qui passait par là. Donc il y a ces deux pères... pour les deux jumeaux, et alors Hergé va créer les Dupont, hein, alors les Dupont, ben, qui sont deux personnages qui errent, qui sont inspecteurs de police, alors ils veulent découvrir la vérité, c'est leur travail, mais alors on sait comment ils le font, ils tapent toujours à côté, ils confondent le mot et la chose, ils prennent les images au sens littéral, c'est pas sérieux, mais en même temps, quand on les regarde avec un peu de recul, c'est tragique, hein, vous vous rendez compte, les représentants de l'ordre dans une bande dessinée pour enfants qui sont constamment tournés en ridicule, c'est quand même étonnant que ça n'ait pas choqué plus de parents.
Autre personnage très important, celui de la Castafiore, puisque toute leur jeunesse, le père et l'oncle d'Hergé, les deux jumeaux, vont être pris en charge par une aristocrate belge. Tout ça, on l'a découvert après que vous ayez vous-même détecté dans les aventures de Tintin un truc bizarre, un secret de famille.
Moi, je l'ai trouvé dans les années 80, 82. Je l'avais publié en 82 dans une revue et ensuite en 1985 dans un livre qui s'appelait Tintin chez le psychanalyste. Et à l'époque, un certain nombre de tintinophiles avaient dit mais qui seront, ils délirent complètement. Voilà. Et puis j'ai eu la chance que quelques années plus tard, ce secret de filiation s'est bien trouvé. Alors, on revient à l'histoire du père et l'oncle d'Hergé. Ils ont une mère qui s'appelle Marie de Vigne, et puis ils ont, comme vous venez de le dire, leurs études et leurs vêtements payés par une comtesse, une aristocrate, la propriétaire du château dans lequel travaille Marie de Vigne, qui, elle, est une pauvre servante. Et alors, la Castafiore, là-dedans, c'est très intéressant. Parce que c'est un personnage double. C'est-à-dire, tantôt, vous avez la Castafiore comme une diva, une grande dame, telle que Hergé, enfant, pouvait imaginer une comtesse ou une baronne. Et puis, à d'autres moments, la moitié du temps, elle est en train de jouer l'opéra de Gounod. Et elle joue la Marguerite. Et ce qui est extraordinaire...
La Marguerite de Faust, le fameux air des bijoux.
Voilà, Marguerite de Faust. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce rôle, Marguerite a exactement le même destin que le dessin de Marie de Vigne, hein, la grand-mère paternelle d'Hergé. C'est-à-dire, c'est une servante, elle est séduite par un homme très au-dessus de sa condition.
Elle croit prince, mais c'est Faust.
Voilà, c'est Faust, rajeunie, voilà, par le diable, et elle se trouve enceinte de lui, et finalement, elle meurt.
C'est vrai que personne ne s'est jamais demandé pourquoi la Castafiore chante en permanence dans Tintin le fameux air des bijoux.
Alors, l'air des bijoux.
C'est le moment le plus important de l'opéra. Hein,
c'est le moment le plus important de l'opéra, et Hergé le savait, puisque dans l'affaire Tournesol, la Castafiore dit « Pour recevoir mes amis Tintin et Adolphe, j'ai mis la plus belle robe de Marguerite, celle de l'air des bijoux. » Donc certains ont dit « Mais Hergé connaissait rien à cet opéra, il a fait un peu n'importe quoi. » Pas du tout, il le connaissait pour mettre ça. Et alors donc la Marguerite de l'opéra de Gounod, eh bien c'est vraiment l'histoire de Marie de Vigne. Encore une fois, le moment où elle a les bijoux, c'est le moment où elle est persuadée qu'elle va pouvoir séduire cet homme. Ben, Marie de Vigne s'est retrouvée enceinte d'un homme très au-dessus de sa condition. Peut-être le roi des Belges de l'époque, on ne saura jamais, Léopold II, qui allait de château.
On a quelques signes, on va y venir. Voilà. Mais d'abord, il y a dans les bijoux de la Castafiore, il y a à un moment le double de la Castafiore, son habilleuse, celle qui la suit partout, qui est elle-même soupçonnée d'avoir volé les bijoux de la Castafiore. Les bijoux, ce seraient les enfants de la Castafiore. L'habilleuse s'appelle Irma.
Voilà.
Et vous faites remarquer que...
Irma, c'est Marie inversée. Alors, ça va...
Marie, la grand-mère.
Voilà, c'est la grand-mère. Mais alors, en effet, la Castafiore, c'est ce personnage double, tantôt grande dame, tantôt Marguerite, donc pauvre servante. Mais il y a quand même une image d'un Hergé où on voit, en effet, la Castafiore et sa femme de chambre.
On la voit juste devant nous.
Irma Marie, hein, qui est accusée d'avoir volé les bijoux. Et donc, inversion, Marie devient Irma. Mais il ne faut pas oublier que Georges Remy était devenu Hergé. C'est-à-dire il fait pour Marie Irma la même inversion que pour son propre patronyme quand il se crée son nom
d'auteur. On peut imaginer d'ailleurs que ces deux jumeaux qui ne savaient pas qui était leur géniteur, qui avaient cet aristocrate qui les couvrait, qui les avait pris en charge, pouvaient s'imaginer effectivement, comme le ferait n'importe quel enfant, peut-être qu'en réalité nous sommes ses enfants et qu'elle nous a confiés à une servante. Tout ça, ça peut faire partie dans les secrets de famille. Il y a ça.
Absolument.
Il y a ce type d'imagination.
Il y a ce type d'imagination. Mais il y avait quand même un élément de réalité extraordinaire. C'était le fait que cette grande dame s'occupe des enfants, de sa servante, comme de ses propres enfants. Alors, avec quelque chose que j'ai appris bien après avoir écrit mon premier livre, c'est que cette dame faisait donc le cadeau des vêtements. Et on peut imaginer qu'au moment où les deux jumeaux, le père et l'oncle d'Hergé, recevaient leurs vêtements offerts par l'aristocrate, c'était des vêtements de riches. Eux, ils allaient dans une école de pauvres. Ils étaient les enfants d'une pauvre servante. Et ils portaient le nom de leur mère. Donc on peut imaginer qu'on se moquait d'eux. Alors rappelez-vous, dans le Lotus Bleu, les deux Dupont, ils mettent des vêtements de mandarins.
Ils se déguisent tout le temps, les Dupont.
Mais là encore pire qu'ailleurs. Et tout le monde se moque d'eux à cause de leurs vêtements. Et c'est comme si Hergé avait, vous voyez, ce souvenir de quelqu'un moqué par ses vêtements.
Alors il y a le capitaine Haddock qui est très important. D'ailleurs Spielberg va faire tout son film sur la quête de filiation du capitaine Haddock, la quête généalogique. Voilà. Et le capitaine Haddock, dont Hergé a dit c'est le personnage qui me représente,
hein,
ça vous ne l'avez pas inventé, il l'a dit lui-même. Or c'est très amusant que justement la Castafiore n'arrive jamais à se souvenir de l'identité du capitaine Haddock.
Voilà.
Elle l'appelle toujours par des noms bizarres.
Alors là aussi c'est parfaitement logique, hein, puisque ni la grand-mère paternelle de Hergé, ni la fameuse baronne, comtesse, aristocrate n'ont donné leur véritable patronyme au père de Hergé, donc son véritable patronyme au père de Hergé. Donc du coup, Hergé n'a jamais connu, hein, de qui il était issu. Et la Castafiore, qui incarne la gardienne du secret, ou les deux gardiennes du secret, ne peut jamais donner au capitaine Haddock son patronyme. Vous savez, elle l'appelle Carpoc, Baboc, Marboc, Pastoc, tout y passe, sauf Haddock. Et c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la famille de Hergé. On peut imaginer que son père a constamment demandé à sa mère « Mais dis-moi quel était le nom de mon géniteur ?» Et peut-être il l'a demandé aussi à la fameuse comtesse qu'il avait élevée. Et jamais aucune des deux femmes ne l'a dit. Elles lui ont donné tous les noms sauf le sien.
On va regarder tout de suite un extrait du film de Steven Spielberg où on voit bien, là, alors il a mélangé les albums pour vous fondamentaux, hein, donc...
Mais il a bien mélangé.
Il a bien mélangé, non, visiblement, il est sur la même ligne que
Absolument.
Vous, Spielberg. On va regarder tout de suite un extrait avec le capitaine Haddock et Tintin.
Nous devons atteindre une porte fermée au bout de cette coursive. Ça va pas être facile.
Vous ne seriez pas apparenté au Haddock du château de Boulinsart par hasard?
Pourquoi cette question?
C'est pour un article sur lequel je travaille. Une vieille épave au large des côtes de Saint-Domingue. Une caravelle, un trois-mâts, 50 canons.
Oh! Que savez-vous sur la licorne?
Pas grand-chose. C'est pour ça que je vous demande.
Le secret de ce navire n'est connu que de ma famille. Il s'est transmis de génération en génération. Mon grand-père lui-même, dans son dernier souffle, m'a raconté l'histoire.
Et alors?
Envolé.
Comment ça, envolé?
J'étais si bouleversé quand il a cassé sa pipe que je n'ai eu d'autre choix que de noyer mon chagrin. Et quand je me suis réveillé le matin, elle était envolée. J'avais tout oublié.
Absolument tout.
Jusqu'au moindre mot.
Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre famille. Peut-être que lui saurait.
Je suis le dernier des Haddock.
Alors on s'en souvient dans Le secret de la licorne, celui d'Hergé, et dans Le trésor de Rackham le Rouge, le capitaine Haddock revient sur les traces de son ancêtre, le chevalier de Haddock. Or, qu'est-ce que vous avez découvert, Serge Tisseron? C'est que le chevalier de Haddock, en fait, alors lui aussi, il aurait une origine royale.
Oui, alors c'est ça l'idée forte, hein, que j'avais trouvée, puis qui a été confirmée après, c'est qu'il y a un secret de filiation. Alors c'est pour ça que la séquence de Spielberg qu'on vient de voir est intéressante, parce que dans Le secret de la licorne, le capitaine Haddock découvre un coffre dans son grenier, et puis dans ce coffre, il découvre un livre qui raconte l'histoire de son ancêtre. Donc c'est vraiment un peu par hasard, et puis personne n'y accordait beaucoup d'attention. Dans le film, c'est très différent, on vient de le voir. C'est le grand-père de capitaine Haddock qui lui raconte l'histoire. C'est vraiment une transmission de bouche à oreille. C'est une histoire très valorisée. Donc déjà, vous voyez, la filiation est importante. Alors ce que j'ai trouvé, c'est que, en effet, il y a un truc mystérieux autour du chevalier de Haddock. Il met un trésor de côté, et puis il fait des petits parchemins pour indiquer à ses descendants où aller chercher le trésor.
Donc, oui, c'est pour ça qu'il se retrouve dans une île.
Voilà, jusque-là, c'est logique. Mais en fait, Tintin, Haddock et Tournesol, quand ils vont trouver le trésor dans l'île, ils ne trouvent rien du tout. Puis finalement, ils le trouvent ailleurs, dans les caves de Moulinsart, là où l'ancêtre n'avait pas dit qu'il était. C'est un petit peu comme si votre arrière-grand-père vous léguait le numéro d'un coffre en Suisse, et quand vous allez ouvrir le coffre, il est vide. Alors vous vous dites, mais ça veut dire quelque chose. Si vous n'êtes pas psy, même peut-être vous allez dire, ça veut dire quelque chose. Donc il y a peut-être un secret derrière le secret. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi et que j'ai trouvé que le secret qui était dans les albums de Tintin, c'était celui d'une filiation donc prestigieuse, un garçon non reconnu par son père, le chevalier d'Haddock, fils probable de Louis XIV, non reconnu par Louis XIV. Et du coup, il garde le trésor qui vaut 10 fois la rançon d'un roi, parce qu'il pense que son père, le roi Louis XIV, lui doit beaucoup plus une reconnaissance de filiation. Et je suis sûr que Spielberg va y arriver, parce que...
Dans la deuxième partie,
il a abattu toutes ses cartes sur la première. Il n'y a que celle-là qu'il n'a pas abattue. Donc forcément, pour faire un bon dénouement, je pense qu'il va...
Ce que vous avez remarqué aussi, c'est que au fronton du château de Moulinsart, il y a un Haddock, le blason du capitaine Haddock. On le voit là actuellement, le Haddock couronné. Voilà. Donc ce qu'elle veut dire, ascendance royale.
Voilà.
Ça, c'est un petit signe qu'aurait envoyé Hergé.
Et ça, Spielberg l'a noté, puisque au début même du secret de la licorne, c'est la nuit, Tintin éclaire ce blason et dit « Ah, un Haddock, c'est donc bien le château des Haddock. » Et je pense que dans la deuxième partie, il dira « Ah, la couronne, je ne l'avais pas vue. C'est donc bien qu'il y a une histoire de couronnement et de filiation royale. »
En effet, puisque vous faites remarquer que ce père illustre, hein, inconnu, peut-être d'ascendance royale, en réalité est omniprésent dans les aventures de Tintin, phonétiquement. C'est le mot « car ».
C'est le mot « car ». Alors le mot «
car » qu'on retrouve partout.
Ah voilà. Alors si on prend... Parce que j'avais un problème. Quand j'ai eu cette idée qu'il y avait une filiation royale, un personnage très important caché dans les aventures de Tintin, un père secret, je me suis dit, mais s'il y a un père secret, où est-il? Alors j'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Alors je me suis dit, c'est... bien sûr je peux dire, comme certains psychanalystes pourraient dire, c'est bien parce qu'il est si important qu'il n'y est pas. Mais ça ne me satisfaisait pas. Je me suis dit, mais bien
ça
quelque
fait rire,
part.
Marcel,
voilà, il devient quelque part. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé dans tous les noms propres créés par Hergé contiennent les trois lettres K-A-R. Le bateau, le fameux cargo de Haddock,
le Caraboudjan,
voilà. Mais la momie Raskar Kapak, le Caredas, tous les... même la Castafiore, tous les noms de Hergé contiennent les trois syllabes.
Rakam aussi, voilà. Alcazar, Rakam, Castafiore.
Voilà. Absolument. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Hergé nous-mêmes nous donne le mode d'emploi. Et vous savez, dans le cèpe d'autocar, dans un avion qu'il emmène en Sildavie, Tintin regarde un dépliant touristique.
On le voit là, voilà. je vous l'ai mis exprès, le royaume du Pélican Noir expliqué aux lecteurs de Tintin. Voilà. Tous les lecteurs de Tintin ont lu cette page et n'y ont pas vu ce que vous avez vu.
Et ils n'y ont pas vu que Hergé nous donne la signification des trois lettres K-A-R, puisqu'il nous dit que en fait... voilà, il y a eu toute une histoire là autour de ce premier roi de Sildavie. Vie, mais qu'il a été baptisé Muscar, qui veut dire grand roi. De Mus, qui veut dire grand, et de Car, qui veut dire roi. Donc quand j'ai eu ça, j'étais très content. Je me suis dit, formidable, partout où il y a Car, dans tous les noms propres de Hergé, il y a roi. Donc en fait, le roi qui est absent de l'image est présent dans le texte, mais alors là, ça prouve qu'un dessinateur de BD, il ne fait pas que des dessins, il fait aussi des cases avec du texte.
Alors tout ça est très convaincant, Serge Tisseron, quand on vous écoute, tout le monde est subjugué sur le plateau. On croit relire les aventures de Tintin. Mais alors Tintin, dans l'histoire, c'est qui? Quel rôle il joue, Tintin?
Alors, Tintin, vous savez...
Si le capitaine Haddock, c'est celui qui représente Hergé.
Voilà, mais il ne faut pas oublier que Tintin, au début, c'est les aventures de Tintin et Milou. Il ne faut pas oublier qu'Haddock, Tournesol, la Castafiore, ils apparaissent après. Donc au début, vous savez, Hergé, ça a été beaucoup dit, il dessine dans une revue de droite des histoires de Boy Scout. Donc c'est l'enfant parfait. Donc Tintin, c'est l'enfant parfait, mais en même temps, c'est celui qui résout toutes les énigmes. Et Tintin ne va pas évoluer. Dire, si avec Tintin, très vite, les albums nous tomberaient des mains. Hein. Heureusement, alors il y a Milou. Alors Milou, déjà, c'est le diablotin et l'ange. Et puis après, il y a Haddock qui va relayer Milou. Haddock qui veut le bien, mais qui pense Hergé gagne en maturité et il va finalement faire de ces trois personnages, Tintin, Haddock et Tournesol, les trois facettes de lui-même. Alors les jumeaux, les Dupont, c'est les jumeaux. Donc la Castafiore,
c'est ceux qui cherchent et qui ne trouvent rien.
Les deux gardiennes du secret. Et Tintin, Haddock et Tournesol, c'est trois facettes de Hergé lui-même. Alors c'est Hergé qui cherche des fois, qui s'Haddock. Et puis vous savez, il ne faut pas oublier qu'Hergé aussi nous a dit qu'il avait été enchaîné à sa table de travail, il a attendu qu'on lui dise le secret de sa filiation, et comme personne ne lui a dit, il a décidé de se rendre sourd au monde et de ne plus écouter personne.
Et de devenir scientifique, ce qui est un élément important, le scientifique...
Et c'est un élément enfin, qui grandissent dans des familles à secret, de bon niveau culturel, des enfants intelligents, et qui vont choisir ce destin parce que c'est quand même extraordinaire la recherche scientifique. C'est le seul domaine dans lequel la recherche et la recherche de la vérité est reconnue. Alors que dans tous les autres domaines, la politique, la finance, l'économie, ça marche pas comme ça. Mais la recherche scientifique,
dernière question, Serge Tisseron, est-ce qu'il serait possible, Hergé nous est...
Son nom,
il l'a dit, disait, ça.
Voilà, il l'a dit. Mais je pense que pour aller fabriquer tous ces noms propres à partir de K à R, il ne pouvait pas s'en rendre compte. Il s'en serait rendu compte, je pense qu'il aurait arrêté. Et il serait dit, quelqu'un qui est aussi présent que son conscient, c'est pour ça qu'on peut le lire aussi souvent.
Vous avez trouvé ça convaincant, Polarieux?
Mais ça me fait penser à une formule du grand poète René Char, parlons des secrets de famille. Question, vous l'avez à ce moment, des secrets de famille et tout ce que ça permet d'enfanter.
Absolument.
Marcel Ruffo. Mais là, il a fait très peu de psychanalyse, là, c'est de la déduction.
Non, mais c'est de la psychanalyse à l'état pur, et il va être d'accord avec moi. Tous les enfants du monde, nous tous autour de la table, ceux qui nous regardent, vers l'âge de 6 ans, croient. Parce que, alors, ils finissent par dire, bon, mais quand même, c'est embêtant, j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, elle a eu une relation amoureuse avec un prince, un roi, et donc je suis le fils de roi. C'est la base du roman familial que
c'est le
si
roi
vous avez pensé ça, vous aussi. Si vous avez pensé ça. Si vous avez pensé ça,
c'est que
non, pas Marie-France Garraud. En l'occurrence, juste, le roi dont il est question, évidemment, c'est Léopold II, le roi des Belges, qui a la réputation.
Mais ce que nous raconte Marcel, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de secret dans la famille sur la filiation. L'enfant se construit un roman familial. Mais quand il y a un secret important, donc c'est plus compliqué. Quand il n'y a pas de secret, il y a un bon roman familial. Quand il y a un secret, il y a beaucoup de doutes. Et c'est plus difficile.
C'est Léopold II, hein, le roi des Belges, qu'on voit actuellement. Oui. Ça pourrait être...
Je pense, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais des bonnes notes, en fait, mes parents nous offraient un Tintin, mon frère et moi.
Ah, bon, pas un Guy Debord, alors. Pas le cousin.
C'était un peu trop jeune, quand même. Hein, par contre, c'est vrai, quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu dépassé par une simplicité apparente.
Hergé, donc, c'est Shakespeare. Oui. On a voulu en faire un auteur pour enfants, mais il y a des tirs où Spielberg est compris cette complexité. Ça, c'est très bien.
Daniel Cohen.
Non, juste une observation que je faisais à Serge Tisseron, c'est que les premiers, mais qu'il a repris, c'est que les premiers Tintins, il n'y a rien de tout ça. Non. Et en effet, c'est assez ennuyeux. J'ai avec ma France vie avec tous ces personnages, avec les Dupont, avec Haddock, avec la Castafiore.
Donc avec le vrai
reçu. Et avec le
vrai. Moi, je dois dire, je suis pas trop fétichiste de Tintin. J'étais avec un ami aujourd'hui qui s'était interdit de lire Tintin à la maison, parce que c'était de la propagande fasciste, etc. Et c'est vrai qu'il y a énormément de saloperies dans Tintin, quand même. Et alors, qu'est-ce qui représente Rastapopoulos? Parce que moi, je veux bien qu'on s'extasie sur Tintin, tout ça, et je trouve les BD exceptionnels, la ligne claire, la dramaturgie, la narration... C'est passionnant, un sombre qui est des psychanalyses.
Ça ressort partout. Donc on pourrait même prévoir qu'un quatrième de couverture...
Deuxième partie du film de Spielberg, quand elle sortira, sous cet angle, normalement ça devrait nous réserver des surprises, d'après ce que vous nous avez dit. Serge Tisseron...